Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude. Qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Bonjour chers amis, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Où que vous soyez, quelle que soit la langue dans laquelle vous m'écoutez en ce moment, le Saint-Esprit est avec vous. Nous allons étudier ensemble la parole de Dieu. Je suis convaincu que vous allez apprendre des choses qui seront importantes et bénéfiques pour vous. Nous nous intéressons à l'Église de Philippe. Nous allons commencer cette session par Philippiens 1 et nous allons parcourir ce chapitre verset par verset. Dans les messages précédents, nous avons découvert comment cette Église est née. Cela est rapporté en Actes 16. Paul et Silas se sont rendus à Philippe. Nous en avons longuement parlé. L'Église est née, mais elle est née au milieu de nombreuses persécutions. La première convertie était une femme nommée Lydie. Elle a été la toute première convertie européenne. Certains la considèrent comme le tournant de la civilisation occidentale. L'apôtre Paul a chassé un démon d'une jeune fille devineresse. Cela n'est pas mentionné, mais il est très probable qu'elle soit devenue croyante et, espérons-le, qu'elle ait rejoint cette nouvelle église naissante. Ensuite, le geôlier de Philippe a été sauvé, ainsi que sa famille. Ils ont tous été sauvés et baptisés dans l'eau. Certaines personnes affirment qu'il est devenu le pasteur de l'église de Philippe. Paul et Silas ont été battus et jetés en prison pour avoir prêché l'Évangile. Mais même s'ils étaient en prison, celle-ci ne les a jamais affectés. En parlant de prison, environ 10 ans plus tard, Paul écrit cette lettre à l'église de Philippe alors qu'il se trouve dans une prison romaine. Cet homme savait très bien ce que c'était que d'être emprisonné pour sa foi. Il renvoie la lettre avec un homme nommé Épaphrodite. Celui-ci apporte la lettre à cette église, à Lydie et à sa famille, au geôlier et à tous les siens et peut-être à cette jeune fille qui avait été possédée par un démon. Et nous constatons que l'église s'est développée. En fait, il y avait déjà plusieurs sites différents au moment où il a envoyé cette lettre. La parole de Dieu se répand très rapidement et elle entraîne souvent un effet domino. Un membre de la famille est sauvé, puis d'autres membres sont sauvés. Ensuite, ils conduisent leurs amis à Christ et partagent l'Évangile avec leur famille. On ne sait jamais quelles seront les conséquences de la conversion d'une seule personne. Ses collègues sont sauvés, sa famille est sauvée, ses amis sont sauvés, et ensuite, leurs collègues, leurs amis et leurs parents entendent l'Évangile. L'Évangile se propage de manière organique et il peut en fait se propager très rapidement. Lisons Philippiens 1:1 où il est écrit « De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. » Il est écrit « Paul et Timothée ». Timothée était l'un des fils de Paul dans la foi. Il était en quelque sorte un médiateur, un ministre de l'Évangile, très doué. Il est écrit qu'ils sont serviteurs de Jésus-Christ. Le mot grec traduit ici par « serviteur » est « doulos ». Il signifie littéralement « esclave ». C'est une personne qui a été achetée par une autre. C'est une personne qui ne s'appartient plus, qui n'a plus le droit de faire ce qu'elle veut, quand elle le veut, ni où elle le veut. En fait, cela s'appelle « faire de Jésus son Seigneur ». Seigneur signifie patron, cela signifie que je renonce à mes droits de vivre de manière indépendante et que ma vie n'est plus ma responsabilité, mais elle devient ma réponse à sa capacité. Il écrit donc aux saints, aux responsables et aux diacres. Or, tous les croyants sont des saints. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre mort et le vote d'un comité pour savoir si vous deviendrez un saint. Le mot grec traduit ici par saint signifie littéralement saint et mis à part, différent. Tous les croyants en Jésus-Christ sont des saints, ils sont saints, ils sont mis à part, ils sont différents, différents de tous les autres dans le monde. Pourquoi? Il est écrit les saints en Jésus-Christ. C'est ce qui nous rend différents, le fait que nous soyons en Christ. Bien sûr, cela se traduit dans notre discours, cela se traduit dans notre mode de vie. Si ce n'est pas le cas, alors mon ami, vous n'êtes pas en Christ. S'il n'y a pas de fruit, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de racine. La racine, c'est avoir confiance en Jésus-Christ. Les bonnes œuvres, le changement de langage et les attitudes différentes sont tous le résultat de l'acceptation de Christ et de la foi en lui. Nous venons à lui tel que nous sommes, mais comprenez bien ceci. Tout le monde dans le monde est soit en Christ, soit en Adam. Vous ne pouvez être nulle part d'autre du point de vue de Dieu. Vous êtes soit en Christ, soit en Adam. 1 Corinthiens 15, 22 dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Tout être humain est d'abord en Adam, simplement parce qu'il est né dans ce monde, né en tant qu'être humain. Adam est notre ancêtre le plus lointain. Nous sommes tous ses descendants. Nous connaissons tous l'histoire. Adam a mangé le fruit de l'arbre avec sa femme Ève. Il voulait être comme Dieu lui-même, décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il se disait, « Dieu n'a pas à être mon autorité, je peux décider moi-même de ce qui est bien et mal. » Cette même attitude et ce même esprit sont encore bien à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Les gens parlent de « ma vérité ». Non, mon ami, il y a juste la vérité. Il n'y a pas votre vérité ni la vérité de votre voisin. Il y a une vérité absolue et seul Dieu la définit. Mais voici le hic. La Bible nous dit en Romains 5 que c'est par Adam que le péché et la mort sont entrés dans le monde. Et cette mort, cet état de mort spirituelle, de séparation d'avec Dieu, a été transmis à tous les hommes à cause de la transgression d'Adam. Ainsi, toute la race humaine est en Adam. Et la seule façon de sortir d'Adam et d'entrer en Christ est de faire un choix. En Adam, tous meurent, ils sont morts spirituellement. Finalement, ils mourront de la seconde mort, qui est la séparation éternelle d'avec Dieu dans un lieu de tourment, appelé enfer. La Bible appelle cela la seconde mort. C'est la destination finale de tous ceux qui rejettent et refusent Christ. D'ailleurs, je tiens à vous dire ceci. Tant que vous respirez, tant que vous êtes en vie, vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez dire oui à Dieu, vous pouvez dire oui à son unique voie de salut. Je sais que certains se disent, c'est tellement étroit d'esprit, je trouve cela offensant. Eh bien, c'est comme ça. Si vous êtes coincé à l'étage d'un immeuble en feu, que je place une échelle contre le mur de cet immeuble, que je brise la fenêtre et que je vous dis, descendez l'échelle, voici un moyen de vous sauver. Vous pouvez croiser les bras et dire « Je ne crois pas que ce soit le seul moyen, c'est étroit d'esprit et cette échelle est offensante. » Vous pouvez être offensé comme vous voulez, mais vous allez brûler si vous ne descendez pas l'échelle. Dieu est tellement miséricordieux, il nous a donné un moyen de sortir de notre péché. Il nous a donné un moyen de sortir de la mort. Il nous a donné un moyen d'entrer dans sa famille, dans la félicité et dans l'éternité avec lui. C'est par Jésus-Christ. Jésus a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Vous pouvez être offensé comme vous voulez, et certaines personnes peuvent dire, « Voilà le christianisme, je suis offensé par son étroitesse. » La vérité est que c'est étroit, et Jésus était étroit à cet égard. Jésus a dit, « Étroite est la porte menant à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Large est la porte menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Mon ami, vous pouvez entrer par la porte large et emporter toutes vos croyances avec vous, mais en fin de compte, cette porte se rétrécit et vous conduit vers une éternité restreinte et tourmentée dont il n'y a pas d'issue. La Bible dit clairement que le chemin étroit qui passe par Christ est difficile. Il y a des épreuves, il y a des persécutions, il y a des malentendus. Lorsque vous restez ferme dans votre foi, le chemin est étroit, mais finalement il s'élargit vers un horizon incroyable, un horizon si vaste que l'esprit et le cœur ne peuvent même pas le contenir. Je tiens à vous dire ceci. À vous qui m'écoutez en ce moment, chaque être humain a le pouvoir de choisir. Mais une fois que vous mourrez, votre pouvoir de choisir vous est retiré à jamais. Vous perdez le pouvoir de choisir dès que vous quittez cette vie. Vous devez faire votre choix tant que vous en avez la possibilité et nous devons donner ce choix aux autres. Aussi gentils que puissent être certains de vos voisins et amis, s'ils n'acceptent pas Christ, ils passeront l'éternité sans lui. Nous avons l'obligation, tant par conscience que par devoir, d'au moins informer les gens qu'ils ont le choix. Je comprends qu'il puisse être inconfortable d'aborder le sujet des choses spirituelles et de parler du paradis et de l'enfer, de parler du salut avec un collègue ou même avec des membres de la famille. Mais pensez-y de la même manière que les personnes qui sont coincées à l'étage supérieur d'un immeuble en feu. Vous vous dites, cela pourrait les offenser si j'appuie l'échelle contre leur maison ou si je vais frapper à leur porte pour voir s'ils vont bien. Je ne veux pas les offenser. Quand nous mesurons cela à la lumière de la vie éternelle, cela vaut la peine d'offenser certaines personnes afin de leur dire la vérité. Ici, Dieu a choisi, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient. Ainsi, une fois que nous avons partagé l'Évangile, le Saint-Esprit agit et amène les gens à la foi. Mais on ne peut pas récolter là où aucune graine n'a été semée. Les gens naissent de nouveau grâce à la graine incorruptible de la parole de Dieu. Je suis donc prêt à offenser certaines personnes. Je suis prêt à être maladroit dans ma présentation. Je peux trébucher tous les deux mots et avoir l'impression d'avoir fait un travail horrible. Mais le pouvoir réside dans la semence. Il ne réside pas dans ma présentation habile de l'Évangile. Même le plus petit enfant peut porter une semence. Vous pouvez porter une semence. Parler de Jésus à quelqu'un. Il dit, j'écris à tous les saints en Jésus-Christ ceux qui sont mis à part, ceux qui sont différents. Et nous sommes différents lorsque nous sommes en Christ. Il a également écrit aux responsables et aux diacres. Ils sont mentionnés séparément des saints. Ils sont saints parce qu'ils sont croyants, mais le responsable a la fonction de pasteur. Nous le voyons clairement en 1 Pierre 5, 2. Il est écrit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant. » Le mot « surveillant » est le même mot que celui traduit ici par « responsable ». Il s'agit du ministère d'un pasteur. Ensuite, il parle des diacres. Il vient du mot grec « diakonos » qui signifie littéralement « serviteur ». Les diacres sont choisis. Nous lisons en Actes 6 que les femmes des Juifs hellénistes étaient négligées dans la distribution quotidienne de nourriture. Un conflit éclata alors dans l'Église primitive. Rien de nouveau. Il y a toujours quelqu'un pour se plaindre de quelque chose. L'apôtre a dit, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Nous devons nous consacrer à la parole et à la prière. Choisissez donc parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. » Ils choisirent donc sept hommes remplis de l'Esprit Saint et de foi. Ils les chargèrent de ce travail qui consistait à servir à table et à distribuer la nourriture. C'est le même mot « servir » qui est utilisé en Actes 6, où nous trouvons ici un diacre. Un diacre est quelqu'un qui sert. Ce sont des personnes qui servent à table et s'occupent de l'hospitalité. Elles nettoient, elles peuvent travailler à la crèche. Il s'agit essentiellement d'un ministère d'aide. Ce travail est tellement important qu'ils leur ont littéralement imposé les mains, ont prié pour eux et les laissèrent se consacrer à cette œuvre. Certains d'entre eux, comme Étienne, ont également été utilisés par Dieu pour accomplir des miracles parmi le peuple. Il y avait donc quelque chose qui avait été ajouté dans sa vie. Mais comprenez ceci, leur travail, le travail d'un diacre, n'est pas de régner en maître sur les gens. Dieu n'a jamais voulu que l'Église soit dirigée par un conseil de diacres. Les diacres sont des serviteurs et, d'un point de vue biblique, ils ont été élus et choisis pour servir à table et servir les gens. Ce n'est pas un poste de supervision où ils votent sur la décision du pasteur de faire ceci ou cela. Je sais que certaines églises sont organisées de cette manière, mais je ne considère pas cela comme biblique. Cependant, être diacre est un appel puissant et important, et c'est un grand privilège de servir et de faire tout ce qui est possible pour le peuple de Dieu dans la maison de Dieu. Paul poursuit en disant « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » J'aime cette phrase « grâce et paix ». Dieu leur écrit une lettre qu'il leur dicte par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, et d'emblée, il leur fait savoir qu'il n'est pas en colère. Que la grâce et la paix vous soient données. Je sais que si Dieu écrivait une lettre personnelle à certains d'entre vous, vous auriez peur de l'ouvrir. Écoutez, Dieu vous aime. Il veut vous accorder sa grâce, c'est-à-dire la faveur imméritée de Dieu. En anglais, nous avons un acrostiche qui ne fonctionne pas dans toutes les langues. Grâce, G-R-A-C-E, God's riches at Christ's expense. Les richesses de Dieu aux dépens de Christ. Il nous donne sa bénédiction sans que nous la méritions. Nous ne l'avons pas gagnée, nous ne l'avons pas méritée, c'est la grâce. Elle nous est donnée sur la base de son caractère et de son œuvre accomplie. Elle n'est pas basée sur notre caractère, elle n'est pas basée sur nos œuvres accomplies. Paul a donc été en présence de Dieu, et il commence par dire que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Il ne dit pas condamnation et jugement, Dieu est sur le point de vous réduire en poussière. Non, grâce et paix. Puis il dit ceci au verset 3 et 4. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières, pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Chaque fois qu'il pensait à eux, il remerciait Dieu. Il ne les tenait pas pour acquis. Nous devrions faire de même. Dieu vous a-t-il donné une bonne épouse? Soyez reconnaissant dès que vous y pensez. Dieu vous a-t-il donné un bon mari? Soyez reconnaissante. Avez-vous de bons amis? Soyez reconnaissant. Avez-vous une bonne église? Avez-vous un bon travail? Soyez reconnaissant. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Chaque fois que vous pensez à eux, vous devriez remercier Dieu. Chaque fois que vous pensez à votre femme, à vos amis, à votre église, au fait que vous avez un travail, un toit au-dessus de votre tête, vous devriez remercier Dieu. Lorsque certaines personnes pensent à leur conjoint, elles ne disent pas « merci Dieu », mais « pourquoi Dieu ?» Or, elles devraient dire « merci Dieu » et non « pourquoi Dieu ?» Puis dans les versets 4 et 5, il dit « Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Pour certaines personnes, prier pour les autres est un devoir. Pour d'autres, prier pour les autres est un plaisir. Pourquoi était-ce une telle joie pour l'apôtre Paul de prier pour eux? Paul dit « Vous avez été mes compagnons depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Ces personnes ont soutenu Paul par la prière et financièrement dès le premier jour où il leur a apporté l'Évangile. Elles lui ont envoyé des offrandes pour l'aider à apporter l'Évangile dans d'autres régions et à d'autres peuples. Paul dit, « Vous avez été mes partenaires, vous avez été en communion avec moi depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. » Ils ont prié pour lui et ils l'ont soutenu financièrement. Vous ressentez de la joie. Lorsque vous pensez à ceux qui ont rendu possible ce que vous faites, je sais que certains d'entre vous soutiennent notre émission Réponse et tout ce que nous faisons à travers le monde dans différentes langues et sur différentes plateformes. Certains nous envoient des lettres d'encouragement et certains prient pour nous et prient régulièrement pour moi. Merci de le faire, cela me remplit le cœur d'une joie difficile à exprimer avec des mots. Il y a des gens qui soutiennent fidèlement et généreusement ce que nous faisons. Ils ont été bénis par la parole que nous avons eu le privilège de partager. Ils nous aident à transmettre cette parole à d'autres personnes. Sachez ceci, Dieu vous récompensera pour cela. C'est une telle bénédiction pour nous et pour notre équipe d'avoir des gens qui nous soutiennent, qui croient en ce que nous faisons, qui croient en cet appel, qui croient que le travail que nous accomplissons est important et significatif. Et cela s'exprime à travers le partenariat. Paul poursuit au verset 6 en disant: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cela signifie jusqu'au jour où Jésus reviendra. Cela signifie qu'il l'accomplira, il l'achèvera. Nous pouvons être sûrs que ce que Dieu commence, il le termine. Il accomplit une bonne œuvre en vous, il accomplit une bonne œuvre en moi. Je suis un projet en cours de construction. Je suis un travail en cours. Dieu merci, Dieu n'en a pas fini avec moi. Sachez que Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Votre salut ne représentait pas la ligne d'arrivée. À bien des égards, ce n'était que le début. Dieu n'en a pas fini avec vous. Combien de temps cette œuvre va-t-elle durer? Encore une fois, jusqu'au jour de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il revienne et que nous nous tenions devant lui. Quelle est cette bonne œuvre qu'il accomplit en nous? Eh bien, il nous transforme à son image. Dieu me transforme à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Il le fait de l'intérieur. Il façonne mon caractère et le vôtre à l'image de Christ. Il nous rend honnêtes, humbles, aimants, généreux, audacieux, doux, patients, saints et fidèles. Il accomplit ces choses en nous afin qu'elles puissent se manifester à travers nous. Ce que Dieu accomplit en vous, il veut le réaliser à travers vous, afin que vous puissiez être une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre. Hébreux 13, 21 partage la même vérité. Il est écrit que Dieu fait en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Il est intéressant de noter que l'expression « faire en vous » est traduite ailleurs dans le Nouveau Testament par « un arbre qui porte du fruit » et par « une personne qui façonne ou modèle l'argile ». Dieu est donc à l'œuvre en vous et il est à l'œuvre en moi. Encore une fois, pensez à cette même expression utilisée pour décrire un arbre qui porte du fruit ou un sculpteur qui travaille et modèle l'argile de ses mains. Les deux expressions désignent un processus. Dieu nous taille et nous façonne continuellement de l'intérieur afin que nous puissions porter des fruits qui glorifieront son nom. Dieu ne vous a pas abandonné et vous n'êtes pas sans espoir. Il est à l'œuvre et rappelez-vous que vous n'êtes pas un échec. Vous êtes en train d'apprendre. Certains d'entre vous ont fait une erreur et vous avez envie d'abandonner. Vous pensez que Dieu en a fini avec vous et qu'il est en colère contre vous. Dieu vous aime et il est temps pour vous de vous relever, ma sœur. Il est temps pour vous de vous relever, mon frère. Secouez la poussière et essayez à nouveau. Dieu agira en vous. Peut-être n'avez-vous pas encore un arbre chargé de fruits, mais soyez reconnaissants s'il y a seulement quelques petites fleurs. Les fruits viendront si nous coopérons avec Dieu. Je crois que nous pouvons accélérer l'œuvre de Dieu par notre coopération, par la prière, en nous nourrissant de la parole de Dieu, par des moments de calme, par l'adoration et en nous associant à d'autres personnes qui aiment Jésus-Christ et qui sont en feu pour Jésus. Nous pouvons également entraver le processus de fructification par la paresse spirituelle et peut-être même l'arrêter complètement si nous choisissons de ne pas coopérer. Mais la vérité à retenir est que Dieu n'abandonne personne. Faisons de notre mieux pour n'abandonner personne non plus. Dieu ne vous a pas abandonné, mon ami. Sachez qu'il vous aime. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu et l'œuvre qu'il a commencée en vous, tout comme il l'a commencé chez ses chrétiens de Philippe, il la mènera à bien jusqu'au jour de Jésus-Christ. ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, Dieu vous aime. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes en Adam. Vous n'avez jamais trouvé le chemin vers Christ. La Bible dit que si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et si vous le confessez comme Seigneur, vous serez sauvé. Pourquoi pas maintenant? Dites simplement « Jésus, entre dans ma vie, je m'incline devant toi et je te reconnais comme mon Seigneur. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je le remets entre tes mains, Seigneur, Jésus. » Il vous aime, nous vous aimons aussi. À bientôt.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.